Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus Place aux idées, l'émission des amis du parc de Chartreuse, avec aujourd'hui un sujet qui prospère pas mal, notamment du côté de la Chartreuse, des projets de jardin collectif et les variantes qui vont avec. Alors, les caractéristiques des jardins collectifs, c'est la dimension collective à plus ou moins grande échelle, que ce soit au niveau des outils ou des jardins collectifs, et nous allons découvrir tout cela là avec les invités qui nous entourent et que je vais vous présenter. Alors on va commencer par Nathalie avec Semer et cueillir ensemble. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Ensuite, le collectif citoyen ici et demain à Miribel-les-Échelles avec Rachel et Ghislaine. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Le collectif C'est pour aujourd'hui et pour demain de Saint-Joseph-de-Rivière. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et enfin, le collectif La Châtaigne à Saint-Jean-d'Avelane avec Tom. Bonjour Tom.
Bonjour.
Le seul homme parmi nous. Ah pardon, Julien, oui, qui est en régie, je m'excuse.
Voilà,
le seul homme au micro.
Ça s'appelle une gaffe.
Une énorme gaffe. Il va même la fera payer, je ne me fais pas de soucis. Nous avons fait récemment une émission sur l'autonomie alimentaire. Alors nous zoomons aujourd'hui sur des initiatives locales qui contribuent également chacune à son niveau, à cet objectif. On va commencer, parce qu'elle est pressée et qu'elle doit nous quitter, par Nathalie avec le collectif Semer et cueillir ensemble à Saint-Laurent-du-Pont. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste Semer et cueillir ensemble?
Donc Semer et cueillir ensemble est né de l'initiative d'habitants de Saint-Laurent-du-Pont et d'autres communes autour. Tout le monde est invité à nous rejoindre s'il le souhaite. Deux idées un peu maîtresses. La première, c'était de construire un espace dans lequel les habitants pouvaient se retrouver et pratiquer ensemble une activité qui soit indépendante du statut de chacun, autour de la question de produire de l'alimentation. Et de l'initiative d'un des habitants qui fait partie évidemment du collectif et qui fait partie même des membres fondateurs, qui a été de construire chez lui, enfin d'aménager chez lui un jardin à haute production. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1200 mètres carrés de terrain en pente, dont de la terre argileuse, donc tout ce qu'il faut pas a priori pour faire du maraîchage. Et je pense que là, il approche des 700 kilos de légumes, fruits produits sur une année sur son terrain. Donc c'est quelqu'un qui a décidé de s'engager très fortement sur son terrain déjà dans cette question de produire dans les critères de l'agriculture biologique. Et voilà, ça a matché entre les deux projets, comme on dit. Et puis maintenant qu'on a, très rapidement reçu le soutien de la commune, pour qui c'était un projet évident à mettre en place après leur élection, on est associé, on n'est pas une association, on est un collectif qui œuvre dans le cadre de l'association du centre social. Et voilà, on produit, on cultive sur trois terrains différents. Des légumes, des saisonniers et des fruits, des arbres fruitiers. Et ben voilà.
Voilà. Alors, si on est habitant de Saint-Laurent, mais peut-être aussi d'autres endroits en Chartreuse, on peut rejoindre ce collectif. Comment ça marche?
Oui. Alors, il y a une adresse mail que je n'ai pas en tête, mais qui doit être semer et cueillir ensemble, tout attaché, @gmail.com. Non, ça ressemble à ça.
Voilà. Je ne peux pas
confirmer. Après, vous pouvez contacter, peut-être sur le site, on pourra le mettre, où il y a une page Facebook, Semer et cueillir ensemble, et tout le monde est le bienvenu. On n'a ni adhésion, ni engagement particulier. On vient jardiner quand on peut, le temps qu'on peut. On n'a pas besoin de compétences particulières. Nos rendez-vous les plus fixes, c'est le dimanche après-midi, mais ça peut varier en fonction de la météo. En ce moment, on travaille plutôt en matinée et en soirée, parce que quand il fait chaud, c'est juste pas possible de travailler l'après-midi. Et surtout, je veux profiter de cette émission pour dire qu'il faut cueillir les fruits et les légumes, parce qu'ils poussent, et que nous, on se sert, mais qu'il y en a beaucoup, en fait, et qu'il faut surtout que les gens se sentent autorisés, même s'ils n'ont pas jardiné, à cueillir, en fait. C'est le cercle qu'on a souhaité mettre en place. Et donc, il y a des légumes à la cure, il y a des légumes derrière le centre social, le portail est ouvert, donc on peut aller se servir. Et la cure est derrière le cinéma. Donc quand les gens du coin, du territoire, quelle que soit leur commune, viennent au cinéma, il faut qu'ils viennent ramasser une salade, un chou, un brocoli, bientôt il y aura des courgettes, des tomates, des fraises, de la salade.
Bon, super, je vais au ciné demain soir. J'irai me ramasser une salade et quelques courgettes alors. D'accord. Sur la dimension de l'autonomie alimentaire, est-ce que c'était l'un des objectifs de création de ce collectif, Nathalie, ou...
Alors, on n'a pas la prétention de réaliser l'autonomie alimentaire, puis on n'a pas non plus l'intention de se placer en concurrence déloyale avec les gens qui vivent de cette production-là. On a juste envie de montrer aux gens qu'on peut tous avancer dans une forme d'autonomie à condition d'en avoir déjà l'envie et ensuite de se donner un petit peu de temps pour le faire. C'est plus une valeur d'exemple qu'un défi défi à relever parce qu'on a tous une activité professionnelle, que si je vous embête avec mon timing aujourd'hui, c'est parce que c'est pas mon activité principale. Et voilà.
Oui, puisque Nathalie doit nous quitter prématurément. C'est tout de suite ou il y a encore 5 minutes?
Non, tout va bien. Oui.
D'accord.
Merci.
Vous nous faites signe quand vous devez partir. On s'organise au niveau des micros. Pour continuer notre tour de table, donc, on va continuer avec le collectif citoyen Ici et Demain de Miribel Les Échelles. Rachel et Ghislaine, est-ce que vous pouvez nous présenter ce collectif?
Donc le collectif, au départ, il était plus dans quelque chose où on organisait plus des événements festifs, c'est Ici Demain au niveau de Miribel. Et après, on s'est dit qu'un jardin partagé était vraiment de bon augure à Miribel, puisque ça n'existait pas. Donc c'est un tout petit groupe d'habitants, donc on a eu quelques difficultés pour trouver un terrain, pour mettre en route, pour... Mais voilà, à force de travail, bon, Rachel habite à côté du jardin, donc c'est une présence très importante déjà au niveau du jardin. Mais depuis 2018, donc on était vraiment un tout petit groupe, et maintenant ça commence à prendre forme, à avoir beaucoup plus de monde qui s'y investisse. On essaye d'être dans l'intergénérationnel d'une façon importante, puisqu'on intègre des tout petits. De la MAM vient avec des tout petits et ils viennent cueillir quelques cerises, quelques fraises ou quelques tomates. On essaye de voir un petit peu aussi avec les PAD, ça marche pas encore tout à fait, mais on perd pas espoir. Mais voilà, c'est un tout petit terrain, 120 mètres carrés, mais on espère être beaucoup plus, s'élargir un petit peu plus au fur et à mesure du temps.
Alors, contrairement à Saint-Laurent-du-Pont, à Miribel-les-Échelles, la commune jusqu'ici n'a pas trop aidé au développement de ce collectif.
Au départ, ils n'étaient pas très chauds. Peut-être par méconnaissance ou par peur qu'on veuille changer un peu des choses qu'ils n'avaient pas envie qu'on change à Miribel, je ne sais pas. Mais depuis l'année dernière, ils nous ont donné un petit peu de l'argent pour permettre un petit peu à ce que le jardin puisse avoir de l'eau, puisqu'on n'a pas d'eau. Donc on a fait, tous les bénévoles donc de l'association ont reconstruit un cabanon qui était plutôt moribond. Et maintenant, on a deux cuves. Donc c'est assez bien.
C'est un bon début.
Et après, il a plu beaucoup pour les remplir.
C'est pas mal aussi.
Donc, c'était très bien. Moi, je vais juste souligner que ça a été possible aussi grâce donc à un habitant de village qui nous a prêté le terrain, Thibault. Donc, j'aimerais bien le remercier. Voilà.
Ah ben, j'espère que Thibault nous écoute, ou en tout cas qu'on lui relaiera ce remerciement.
Merci.
On va continuer avec le collectif C'est pour aujourd'hui et pour demain à Saint-Joseph-de-Rivière avec Catherine.
Oui, eh bien nous sommes un collectif qui a pour objectif à la fois de créer des liens entre les habitants. Donc c'est pas limité aux habitants de Saint-Joseph-de-Rivière, il y a des personnes qui viennent d'autres communes. Et le deuxième objectif, c'est de favoriser des comportements, des projets, des choses qui sont en faveur de la transition écologique. Donc le jardin, c'est notre premier projet, on va dire, avec le troc au plan, pour créer justement du lien entre les personnes. À Saint-Joseph, il n'y a pas de jardin public. Donc on s'est dit, on va commencer par faire un jardin où les gens pourront s'asseoir, discuter. Donc on a fait, en fait nous on n'a pas demandé de subvention, pour l'instant c'était une volonté. Donc on a récupéré des bancs, enfin un banc qu'on a retapé et d'autres bancs qu'on a fait nous-mêmes, donc bon collectivement. Hein. Et puis on a créé des bacs pour mettre des plantes et des fraises, des framboises. Donc c'est pas un jardin qui a enfin, qui veut nourrir les gens. C'est un peu un jardin...
De rencontre, d'échange.
De rencontre, d'échange, mais aussi qui favorise la biodiversité là où il est, quoi. C'est-à-dire au cœur du village. Et donc avec aussi des plantes mellifères ou des petites choses à manger. Mais c'est pas un jardin de production, voilà. Mais,
comme celui que Nathalie vient de nous décrire, avec voilà. Des courgettes, des salades, des choux, etc.
Voilà, donc après nous notre objectif aussi c'est que donc le Covid évidemment comme beaucoup d'associations a beaucoup freiné les choses. Déjà il y a eu du temps pour que on ait le terrain, que ça se mette en place, voilà, plus le Covid. Mais donc ce qu'on aimerait c'est que les habitants puissent s'approprier, on va dire, ce jardin pour le fréquenter, ça commence parce que en fait l'école est juste à côté. Donc il y a des gens qui vont après l'école, enfin avec les enfants par exemple après l'école. mais voilà, qui pourra profiter à tout le monde, et que petit à petit aussi, on espère que les habitants puissent aussi s'impliquer dans des petites choses à faire qu'il y a au jardin, des herbages, des choses comme ça. Voilà.
Très bien, merci Catherine, et puis on va finir en beauté avec... avec notre seul homme côté micro, Tom, pour le collectif La Châtaigne à Saint-Jean-d'Avelane.
Donc La Châtaigne, c'est un collectif qui s'inscrit dans une démarche d'autonomie, donc pas uniquement alimentaire. Et donc on fait bien la distinction entre l'autarcie et l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est vraiment la possibilité de choisir son mode de vie. L'autarcie, c'est plutôt une forme de fermeture. Et l'autonomie a besoin d'un collectif et d'un lien au territoire, là où l'autarcie, pas forcément. Donc c'est un premier point nous qui nous paraissait important, et je vais vous faire rapidement un tout petit historique du collectif, comment il a été monté. En fait, à la base, on faisait des yourtes philosophiques, donc c'était des réunions de discussion sur des thèmes. Donc on a fait pas mal de thèmes, dont la crise écologique ou l'effondrement, le travail, le rapport au temps. Et suite à celle sur l'effondrement, il y a eu comme une envie collective de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à tout ce qui va arriver. Et il y a eu l'idée de monter quelque chose qu'on a appelé les brigades jardin. Et donc ça, c'était de dire chacun en campagne a un jardin, qu'il utilise très peu parce qu'il est le seul à le cultiver. Donc si on a 10 personnes qui ont un jardin et qu'on tourne à chaque fois une équipe de 10 sur les jardins de chacun chaque semaine, là on va pouvoir réellement se mettre à vraiment cultiver ces jardins. Donc ça a commencé comme ça. Et comme dans ce petit collectif on avance par expérience, et ben au bout d'un an on a vu qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient pas. Le Covid est arrivé là-dessus. Et donc on va dire que le groupe le plus motivé des brigades s'est dit nous ça nous convient pas. Enfin ça nous convient plus. On a envie de passer à un niveau supérieur, si on peut dire. Et on a envie de cultiver un champ. Il se trouve que le paysan local nous a proposé une parcelle que lui ne peut plus cultiver avec ses machines. Donc ça aussi c'est assez drôle parce que nous on est sur du travail manuel. Et donc on a mis en culture ce champ, et l'idée est sur ce lieu de l'autonomie alimentaire, mais aussi de la culture avant tout. Donc un rapport au savoir-faire, un autre rapport aux outils, on peut faire sans pétrole, toutes ces réflexions-là. Et donc on a commencé cet automne, donc c'était un champ cultivé depuis assez longtemps en traditionnel. Et donc là on est passé sur du paillage, de la permaculture. Et donc on a commencé cet automne avec un concert pour ouvrir, un mini-concert, pour ouvrir la mise en culture du champ dans les deux sens. Donc voilà, on est sur un petit peu toutes ces questions-là.
Super. Alors on va après cette présentation et avant de rentrer dans le débat et les échanges, on va se faire une pause musicale pour reprendre notre souffle, comme j'ai coutume de dire, avec une chanson de Michel Berger, « Ça ne tient pas debout ».
Naturel. C'est un pouvoir étrange qui te donnerait des ailes. Tu lui ouvres les bras, tu cours quand elle t'appelle. Et tu danses enfin avec elle. Tu danses, tu danses. Ce regard pour les gens sur toi, tu t'y habitues, ça ne tient pas debout. Cette force qui habite en toi, tu l'as toujours eue. Ça ne tient pas debout. Le malheur, ça n'existe pas, tu l'as toujours su. La vie, on s'en fout. On est tout. Ta vie, tu l'as vu. Tout le monde ne marche pas non plus. Le monde ne marche pas non plus. Pendant qu'on crie si fort pour cacher nos faiblesses, on oublie nos trésors, on ménage nos caresses. Comme si on voulait nous dire, pourquoi se battre à mort pour sauver nos richesses.
Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent actuellement sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse dans notre émission Place aux idées, émission mensuelle des Amis du Parc de Chartreuse. Nous sommes sur le sujet des jardins collectifs partagés, de leurs variantes, avec plusieurs invités. Nathalie de Semer et Cueillir Ensemble nous a quittés, le travail oblige. Hein. Alors on continue avec les autres invités. Et moi j'ai envie de vous demander l'objectif, quels étaient les objectifs initiaux de chacune de vos démarches et comment ont évolué ou évoluent actuellement les ambitions, une fois que c'est parti, de ces diverses démarches. On va commencer par Ghislaine et Rachel.
Au départ, c'était essentiellement faire du lien dans le village parce que à Miribel, il n'y a pas de café, il y a peu d'endroits où on peut se réunir, il y a peu d'endroits où on peut partager un petit peu des moments conviviaux. Donc, on s'est dit que au centre du village, puisque c'est en plein centre du village qu'il est ce petit jardin.
Il est à quel niveau, centre du village? Ah oui, l'église, derrière l'église. Voilà. Ça ne peut pas être plus central.
Hein. Voilà. Donc, ça pouvait être un endroit voilà, où on peut se réunir. Bon, pour l'instant, c'est pas complètement encore au niveau qu'on en espérait, mais on espère petit à petit, au fur et à mesure du temps, que les choses vont s'améliorer. Donc c'était ça au départ. Maintenant, avec la jeunesse qui nous a rejoint dernièrement, donc on s'est dit qu'on peut peut-être avoir un petit peu plus d'ambition et puis des idées nouvelles, parce que c'est vrai que nous on est plus des doyens, donc on a besoin d'avoir des idées de la jeunesse pour nous remotiver. Donc voilà, donc, mais au départ c'était essentiellement rencontre et partage avec
du lien.
Voilà.
Alors il y a aussi dans les tiroirs, vous l'avez exprimé tout à l'heure, des projets d'élargir un petit peu la démarche auprès de l'association MAM et de l'EHPAD de Miribel des Échelles.
Oui, la MAM a déjà rejoint, fait déjà partie du collectif, puisque il y a une petite parcelle. Pardon, excusez-moi. Il y a une petite parcelle, entre guillemets, qui leur est dédiée, mais ils se promènent dans tout le jardin, ils cueillent, ils regardent, ils plantent.
Alors, on peut rappeler ce que c'est
C'est la maison des assistantes maternelles,
voilà.
De Miribel.
Donc, elles viennent avec les enfants
qu'elles
ont en
garde. Qu'elles gardent.
Voilà, donc ça concerne les petits bouts, hein.
Petit.
Le début de vie. Et pour l'EHPAD?
Pour l'EHPAD, pour l'instant, ça n'a pas encore abouti, mais j'y travaille. Et voilà.
Et l'idée, plus clairement, serait de quoi? D'amener les personnes âgées à venir cultiver un petit peu?
Oui, mais ce qu'il y a, c'est la configuration des lieux n'est pas tout à fait adaptée.
Voilà. C'est en pente?
C'est en pente, et puis il y a des petits escaliers qui sont un peu difficiles. Du coup, d'où l'idée de trouver un autre terrain qui serait un peu plus accessible.
Appel au peuple, à la commune
de
Miribel, en particulier.
C'est ça.
D'accord. Alors, concernant Saint-Joseph-de-Rivière, il y a peut-être l'idée que les Riviéraux, comme on appelle... les Riviérois, les habitants de Saint-Jean, donc, s'approprient le jardin et soient peut-être un peu plus partie prenante, au-delà de la dimension échange et rencontre.
Ben, en fait, oui, je pense que, enfin, là, on va à l'automne créer un événement au jardin pour le faire connaître plus. Je pense que il est entre l'église et l'école, c'est un peu, enfin, pour les gens qui vont, les parents, par exemple, qui vont chercher leurs enfants, ben, il est connu. Après, il est un petit peu caché, on va dire, sinon. Et pour l'instant, par exemple, on lui a pas encore donné de nom, donc on voulait faire ça et l'inaugurer, enfin, créer un événement autour du jardin. Donc ça, on va faire ça, je pense, à l'automne. Avec le Covid, on n'a pas pu faire ça avant. Et donc après nous on est assez, enfin voilà, on est ouvert à des choses qui peuvent se passer au jardin et des idées que nous on n'a pas mais qu'on peut aussi nous soumettre. Voilà, il y a aussi un projet avec la communauté de communes pour implanter les bacs à compost collectifs qu'ils ont maintenant. C'est des gros bacs à compost qui sont en fait à 100 mètres, on va dire, de jardin actuellement. Mais on a vu ensemble, enfin c'est sur leur demande, c'est qu'on pourrait les mettre sur notre jardin parce que c'est vraiment le passage pour aller à l'école, c'est très beaucoup plus visible. Donc ça, ben voilà, pour nous ça fait vraiment aussi partie de notre démarche, dans notre collectif, quoi, pour diminuer les déchets qui vont à la poubelle. Donc bon, il y a cet objectif là, et oui, et que les gens, ben petit à petit, sentent que c'est leur jardin, enfin c'est le jardin de tout le monde. Donc c'est aussi pour participer à son entretien ou faire des choses. Nous, après, on expérimente aussi nous-mêmes des choses. là on va créer aussi une spirale d'aromatique. Enfin voilà, puis on a au Printemps des Poètes, on a aussi fait un accrochage, une installation de poèmes. Enfin, ça peut être aussi un endroit un peu artistique.
Oui, après, à l'automne, il y a la semaine du goût ou il y a la période de la transition alimentaire. Oui. On est en plein dedans, on y reviendra tout à l'heure. Ça peut être des occasions, de créer des petits événementiels. Alors, on va finir ce petit tour de table par Tom. Objectifs initiaux du collectif du collectif de la Châtaigne et ambition à court, moyen terme.
J'ai un petit peu parlé d'autonomie tout à l'heure, donc je vais pas y revenir. L'idée maîtresse, je pense, c'était de créer un outil commun, vraiment. Et le deuxième, c'est aussi faire, au sens vraiment large du terme, dans un monde où ça devient de plus en plus difficile et compliqué de faire des choses, il faut toujours le formulaire 45R. Ouais. Donc là, de dire non, là, on va faire, on va partir de besoin. Et puis le besoin de mutualiser, de mettre ensemble, c'est un peu, ouais, j'ai raconté la petite histoire tout à l'heure, c'est comme si c'était une suite de choses, ça n'a pas forcément été un projet qui a été imaginé pendant des années, et puis en cherchant le bon moment ou le bon terrain, c'est plutôt une succession de petits pas, en disant on va faire avec ce qui est là, et il se trouve que le petit pas de la suite, c'était que le paysan local avait ce champ-là. L'idée vraiment... maîtresse, je pense que c'est l'idée de construire un autre rapport au travail collectif, un autre rapport au collectif que celui qui nous est proposé. Il y a l'idée de sortir de la posture individualiste, de partager la terre, partager le travail. Et pour nous, on entend souvent que le Covid a pas permis de faire ci ou a pas permis de faire ça. Pour le coup, nous, ça a été vraiment l'inverse. C'était entre guillemets déjà dans les tuyaux et cet événement-là a été l'accélérateur. Ça nous a pas du tout paralysé. On s'est dit non, on va faire. Parce que c'est important.
Oui, on va reparler de l'effet Covid, effectivement, sur ces diverses démarches, l'impact de l'effet Covid. Très bien. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un mot un petit peu compliqué pour le vulgaire pécus, un outil vernaculaire. Je trouvais le concept intéressant. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu?
Alors, avec grand plaisir. Ça, c'est un peu ma marotte que j'essaie de placer un peu partout parce que pas grand monde le connaît. Enfin, je pense que c'est un outil de pensée intéressant qu'on a évacué. Donc, pour faire très court, c'est un penseur de l'écologie politique qui s'appelle Ivan Illich, qui l'a ressorti des tiroirs. Donc lui, il l'a ressorti du droit romain. Peut-être des gens ont entendu parler du vernaculaire pour l'architecture, en disant l'architecture vernaculaire, en Isère, c'est le pisé et autres. Il y a les plantes vernaculaires, il y a les langues vernaculaires, les patois. Et donc voilà, l'idée du vernaculaire, est vernaculaire, ce qui est tiré des communs. Donc on revient sur cette idée d'outil commun, qui est là pour la communauté et qui est destiné à ne pas être vendu sur le marché. Et donc, nous, dans nos démarches, il y a vraiment cette idée-là. On ne l'a pas forcément... c'est moi qui amène ce bagage-là dans le collectif. Donc on ne l'a pas forcément débattu en disant « Ouais, c'est notre cœur d'idée et tout. » Mais il est quand même là, derrière un peu tout ce qu'on fait. Et donc, ce penseur qui l'a développé oppose cette réalité du monde-là, qui est le monde vernaculaire, au monde industriel.
Et, au système, finalement.
Au système industriel. Donc, autant de pensée que de production, que de machines.
Au système économique aussi.
Au système économique. Et avec la lecture qu'actuellement, le vernaculaire est en train de se faire massacrer. Donc, il y a l'idée de ce collectif-là aussi de dire, sans en parler, on le fait, on recrée des outils et des manières de penser le monde différemment.
Alors, le concept est intéressant. On le retrouve aussi dans le collectif de Saint-Jean, puisque vous avez accueilli notamment dans ce collectif Chartreuse,
oui.
Dont le principe est des échanges sur diverses dimensions, hors alimentaire. Il n'y a pas de valeur marchande, on ne vend pas, on échange.
C'est basé sur la gratuité, l'échange. Et ça rentre aussi dans les objectifs de notre collectif où on essaye vraiment au maximum de faire gratuit et dans l'échange. Bon, et après, s'il y a des choses, parfois, on fait une buvette, oui, c'est pas gratuit, mais sinon, on essaye vraiment de ne pas être forcément dans l'achat des choses, etc., de récupérer,
C'est-à-dire que, par exemple, on va proposer de donner tout un matériel de camping, je dis n'importe quoi, hein, de tentes, chaises de camping, tables, gaz de camping. Soit en échange de quelque chose, soit en échange de rien du tout.
Oui.
Et ça peut être en échange, par exemple, d'un coup de main pour faire des travaux chez soi ou je ne sais quoi d'autre, sortir le chien.
Oui, le principe de Chartreuse, c'est des échanges gratuits échanges ou dons. Voilà. Donc, ça concerne le secteur quoi, de Chartreuse.
Ça doit plaire à Tom, ça, non ?
Oui.
Oui, ça peut, c'est très varié. Hein, ça peut être des coups de main, ça peut être, je sais pas, des meubles, des matériaux, enfin toutes sortes de choses.
Des conseils.
Les gens peuvent ressentent ce qu'ils ont chez eux, ils disent plutôt de le mettre à la poubelle justement.
Oui, même des animaux. Moi, j'ai truqué un mouton contre un âne.
Ah, super.
Oui.
Vous avez gagné au change ?
Pour l'instant, ça ne s'est pas fait encore.
Ah, d'accord, super. On se fait une nouvelle pause musicale avant de continuer le débat avec Donnez-nous des jardins de Pierre, je ne sais pas qui, Émilie
Perret.
Perret, merci. Voilà, de Pierre Perret pour le technicien qui mettra tout ça en musique.
Donnez-nous des jardins. Des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout en sang. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils.
Donnez-nous des jardins. Des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles, le vol du bourdon. Si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux. Une jolie chenille est venue tremper une soupe aux choux. Et un pauvre mille pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler.
Donnez-nous les jardins. Des jardins pour y faire des bêtises,
d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout en sang. Dire au hérisson qui peut aller se raser, au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec, que même ces dames du MLF trouveraient pas ça correct. Quelle vie merveilleuse, loin des marteaux-piqueurs, des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs.
Donnez-nous des jardins.
Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur les ondes de Couleur Chartreuse pour ce nouvel opus de Place aux idées, qui a pour sujet aujourd'hui les jardins collectifs et les variantes qui peuvent les accompagner. Donc nous sommes entourés pour en parler de semer et cueillir ensemble, bien qu'elle soit déjà repartie, Nathalie, parce qu'elle avait d'autres impératifs, du collectif citoyen ici demain à Miribel-les-Échelles, du collectif collectif C'est pour aujourd'hui et pour demain de Saint-Joseph de Rivière et du collectif La Châtaigne à Saint-Jean-d'Avelane. Alors, on va y aller, ça y est, on va peut-être parler maintenant de l'impact Covid par rapport à vos divers collectifs, puisque notamment sur Saint-Jo et sur Miribel, vous me disiez les démarrages étaient un petit peu timides. La démarche de La Châtaigne étant un petit peu différente. Et visiblement, le Covid a l'air d'avoir émulsionné un petit peu ces diverses démarches, avec peut-être une prise de conscience nécessaire sur la nécessité de fonctionner autrement.
C'est ce qu'on a ressenti à Miribel, c'est que depuis le Covid, où les gens se sont un peu posés parce qu'ils n'avaient pas le choix, donc ils ont peut-être aussi regardé ce qui se passait autour d'eux. À Miribel, il y a des choses qui se passent, il y a une banderole là, mais on n'avait jamais vu jusque là, donc et petit à petit, donc on a eu un groupe de jeunes, des gens qui arrivent sur Miribel depuis peu et donc qui se sont mis avec nous au niveau du collectif, donc du jardin de la Binette, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc voilà, et donc c'est l'effet Covid positif. Donc quelque part, on se dit que voilà, donc le Covid a été bénéfique à ce niveau-là. Et puis d'une façon plus, peut-être un peu plus profonde, c'est que voilà, les gens se rendent compte que eh ben la proximité, elle est hyper importante, et que c'est peut-être pas la peine d'aller sortir du village pour avoir un minimum de choses, et que voilà, on peut faire un petit peu les choses soi-même parce qu'on a une force de travail et qu'on peut arriver collectivement à faire des choses.
Rachel, quelque chose à rajouter ?
Moi, j'avais d'abord, par rapport au Covid, c'était pas une détresse, mais effectivement, ressenti, oui, presque une détresse des personnes au moment du Covid.
Ça nous a tous pris voilà, court, il faut dire un truc pareil, personne ne s'y attendait. Hein,
voilà, et donc... Donc du coup, la recherche du lien avec les voisins, avec
le retour à la terre, aux choses naturelles peut-être.
Tout à fait.
Oui.
Et ça, oui, effectivement.
Vous avez vraiment ressenti ce mouvement-là.
Voilà.
Oui.
Et donc la solidarité aussi.
Oui.
Les personnes, comme je vous avais donné l'exemple du monsieur qui m'avait appelé pour offrir des plans, il n'a pas été le seul. On en a eu plusieurs. Et on a aussi eu des coups de main de personnes qui sont venues nous aider pour le chantier participatif pour le cabanon. On a eu des dons de cuves pour la deuxième cuve, elle nous a été donnée aussi.
Mm-hmm.
Oui, pour l'eau. Enfin, voilà. Vraiment, oui, ça. Une petite émulation.
Espérons qu'elle dure.
Tout à fait. Mais...
du côté de Catherine, tout à l'heure, hors micro, on parlait du manque de prise de conscience de la part des élus et même des particuliers par rapport au monde dans lequel on vit. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que vous ressentez une différence en post-Covid de cette prise de conscience ou pas du tout ?
Alors, au niveau de notre jardin, c'était... plus compliqué parce que c'est un espace public et qu'on n'avait du coup pas le droit de se réunir. Donc en général, on était un certain nombre pour faire les choses, donc c'était pas possible, ou faire des réunions. Mais par contre, on a aussi un marché du vendredi soir. C'est un marché qui fonctionne comme une AMAP, où on peut prendre un panier et puis il y a d'autres producteurs qui viennent. Et là, en fait, c'était concomitant, c'est-à-dire on a créé ce marché et bim, il y a eu le Covid et le confinement. Et du coup, on se demandait combien de paniers on allait avoir, quoi. On avait, voilà, on se posait des questions.
Ouais.
Et puis, en fait, on a eu un record de paniers. Donc, au moment du confinement.
Donc, le consommé local a bien fonctionné.
Voilà. Donc, ça a très bien fonctionné pendant tout le confinement.
Ah, la question c'est après.
Mais quand même, depuis qu'il y a un certain retour à...
À la vie normale, entre guillemets.
Anormale ou normale, je ne sais pas comment
vous l'appelez. Oui, normale, entre guillemets.
Ou anormale, voilà. Et bien du coup, là par contre, ouais, il y a une baisse. Donc moi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont pris conscience de l'avenir avec le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre qui augmentent, enfin... C'est notre consommation énergétique qui est beaucoup trop importante. Il y a peut-être des gens qui ont conscience de ça, mais moi je dirais que les gens reprennent leur vie d'avant et après peut-être se posent moins de questions.
Oublient peut-être
un
peu vite.
Mais comme tout le monde, je pense qu'il y a, je veux pas me mettre hors du truc, quoi. Il y a certainement un. Comme ça, on retourne toujours au confort, quoi. Enfin, au confort dont on a l'habitude. Et peut-être que. Voilà, il faut continuer à se battre pour. ouais, pour montrer comment vont, voilà, que deviennent les choses.
Et... Ça peut donner des idées au collectif sur des initiatives, des soirées débats, oui, des discussions sur ce genre de sujet.
Oui, notre collectif va d'ailleurs bientôt organiser une conférence là début juillet sur justement le réchauffement climatique et tout ce qui concerne les émissions de carbone et comment expliquer déjà ce que c'est et ensuite quelles actions on peut aussi avoir.
Moi, je ne jette pas la pierre aux gens qui ont repris leurs habitudes parce qu'on est dans une sorte de schéma de vie où les grands pôles économiques, ce n'est pas dans les zones rurales, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon on aurait un impact plutôt négatif en termes de carbone. Mais bon, ça joue aussi puisque ça génère des déplacements. Et donc, effectivement, quand on n'est plus en télétravail et qu'on doit retourner bosser à Grenoble, Chambéry, Voiron, ou je ne sais pas où. Effectivement, on reprend nos habitudes et puis on n'a pas le même temps, peut-être le même espace-temps pour faire ce qu'on a pu faire pendant les confinements, sans jeter la pierre.
Bien sûr. Non, mais moi je disais pas ça pour culpabiliser les gens. Je pense qu'aussi la responsabilité individuelle, c'est une partie des choses, mais sans responsabilité collective et celle de nos politiques au plus haut de ce qu'on a, les choses peuvent pas bouger, quoi. Il faut qu'il y ait un moment, il y ait une action beaucoup plus forte et qui soit collective. On peut pas tout laisser sur la responsabilité individuelle des gens, quoi.
Et alors justement, la question s'adresse à tous. Cette prise de conscience de nos élus, ne serait-ce qu'au niveau de notre territoire, on a plusieurs niveaux. Hein, on a les communes et puis on a l'intercommunalité, voire le parc. Est-ce qu'on peut pas imaginer des démarches collectives qui pourraient associer ces collectivités locales? Et peut-être les amener à être plus acteurs de ces changements, de ces nécessaires changements.
Ça c'est sûr qu'il y aurait une participation beaucoup plus active des différentes strates d'élus. Ça serait très bien. Ça existe. Hein, dans des films que j'ai vus, même il y a des communes qui ont fait des régies agricoles, par exemple. Pour faire du maraîchage, qui sera comment dire, pour la commune, pour les habitants d'une commune, pour les cantines ou des choses comme ça, et ça marche, quoi. Après il faut peut-être
trouver le juste équilibre entre les professionnels aussi qui produisent
par exemple,
localement et...
Oui, mais par exemple là c'est des maraîchers par exemple qui sont salariés par des communes.
D'accord, des maraîchers locaux qui sont salariés. Ouais. Ah oui, d'accord, effectivement, oui.
Donc,
pourquoi pas.
C'est aussi des idées. Faut qu'elles fassent leur chemin, mais ça existe et ça marche.
Ghislaine et
moi, je
et
pense
Rachel,
que,
oui.
Il faudrait, que plutôt que d'attendre aussi que les élus s'impliquent, si nous on est force de proposition ou déjà qu'on est dans l'action, je pense que c'est par l'exemple aussi on peut un peu les faire bouger, sinon il l'aurait fait déjà.
Oui.
Vous
pouvez aussi imaginer unir vos forces maintenant que vous connaissez.
Tout à fait. On avait été visité à l'inauguration de
La Châtaigne.
Non pas La Châtaigne.
La ressourcerie.
La ressourcerie.
Eh ben oui, parce que Tom il est sur plusieurs projets.
Donc ça nous intéresse et effectivement il y a.
Mais
moyen,
pour rebondir sur ce que tu disais sur. Être force de proposition, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il faut arrêter d'attendre des politiques publiques le changement social et écologique. Enfin, ça va peut-être être méchant, mais il ne viendra pas d'eux. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance du terrain ni les enjeux. Bien souvent, ça ne marche peut-être pas pour nos élus locaux, mais l'institutionnel est quand même dans un monde à part.
Tout à fait.
Et si quelqu'un s'intéresse un temps soit peu à l'histoire, le changement social, il vient la plupart du temps des petites gens. Ensuite. C'est repris et ensuite au début c'est ridicule, ensuite ça devient super dangereux parce que c'est quoi, c'est révolutionnaire, et puis 100 ans plus tard on se dit mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt. Et je pense que ça parle aussi de culture, de aujourd'hui on attend un petit peu, mais que font nos élus, mais en fait nos élus c'est pas leur mode de penser, penser hors des cases. Moi je connais pas beaucoup d'élus qui ont cette capacité là, il y en a,
ils ont été formatés pour en général,
voilà, et donc ça peut être que les petits gens qui feront le changement,
le changement,
sauf qu'on n'a pas 100 ans
et en même temps on avance qu'à la crise, et donc je pense que la crise écologique, pour l'instant on est à un endroit où nous on la vit globalement bien, c'est pas assez compliqué pour qu'il y ait un réel changement. Et enfin, c'est, je fais pas du tout l'oiseau de malheur en disant ça, mais je pense que on n'échappera pas à une terrible crise écologique, mais on fera comme on pourra en s'adaptant. Et toutes les initiatives que nous on monte là et que partout dans le monde sont montées auront de plus en plus de sens au regard de ce qui se passera. Et je pense qu'il faut aussi être lucide sur le fait que la méga machine dans laquelle on est ne va pas rediriger
sa
route.
C'est pas elle qui, voilà, qui nous...
Et c'est elle pourtant qui accélère... Enfin, c'est elle qui mène le sens de l'histoire pour le moment. C'est pas nos petits jardins. Donc je pense qu'on est sur un double niveau de... Soyons réalistes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma lecture, mais je vais en profiter pour jeter une phrase de Gramsci qui disait « Il faut le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ». Et je pense qu'on est là-dessus. De dire « Soyons lucides » et en même temps, ne baissons pas les bras. Et puis même si on n'y arrive pas, on se sera bien marré quand même.
Alors, je vais moi, si Tom a rebondi sur ce que vous venez de dire, moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Tom, parce que nos auditeurs ne peuvent pas le savoir. Si on identifie bien qu'on a affaire à un homme, mais on n'identifie pas l'âge. Donc Tom est le plus jeune autour de la table. Et ses paroles de sagesse et d'expérience de la part d'un aussi jeune homme sont plutôt surprenantes. Donc, deux questions. La première, Tom, est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Cette prise de conscience, est-ce que vous avez été éduqué par des parents ultra conscients de ces choses-là? Comment en êtes-vous arrivé à cette conscience-là? Et autre question plus large adressée à tout le monde, est-ce que dans vos collectifs respectifs, on a que des gens qui ont entre 40 et 60 ans, ou est-ce que on a aussi des trentenaires, des gens qui ont la vingtaine?
Moi je réponds c'est pour aujourd'hui et pour demain. Non, la trentaine passée, oui, peut-être, mais pas moins. Enfin, après, il y a des enfants parfois qui viennent avec leurs parents. Mais ouais, on n'a pas trop de jeunes, quoi. Enfin, pas comme Tom.
Et Ghislaine et Rachel?
Nous, cette année, on a des jeunes qui nous ont rejoints.
Des jeunes
qui nous ont rejoints.
C'est comment,
moins de 30 ans.
Okay.
Oui. Moins de 30 ans. Et je voulais souligner aussi, Thibaut qui nous prête le terrain est un trentenaire. Donc, c'est quand même remarquable.
C'est plutôt rassurant,
oui,
d'accord.
C'est rassurant.
Ok. Alors, on redonne la parole à Tom, parce que du coup,
pour
on
la
l'a
première
coupé
question.
La chic, oui.
Non, mais pas de souci, je prends mon mal en patience. Non. C'est une bonne question. Je pense que je suis tombé dedans, effectivement, tout petit. Mon père, il est photographe naturaliste, donc grand amoureux de
la
nature. Mais la nature, au sens... la nature non touchée par l'homme,
sauvage.
Sauvage.
Ouais.
Et ma mère aussi, toujours très intéressée par les plantes. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai grandi dans une vision de l'écologie qui, si je la caricaturais un peu pour comment dire, voir ses limites, c'est respectons la nature, il ne faut pas couper les arbres, mais chauffons-nous au bois et prenons notre voiture pour aller marcher en montagne. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans un espèce de paradoxe. Et je pense que les enfants... c'est grâce aux erreurs de leurs parents, enfin aux erreurs, à l'exemple de leurs parents qui prennent une autre voie. Et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de baigner là-dedans. Et du coup après c'est des parcours, des rencontres avec des personnes. Et puis je pense aussi une sensation, enfin un besoin de faire ça. Enfin il y a pas, c'est pas que j'ai pas le choix, je le fais avec grand plaisir, mais il n'y a pas d'autre.
Ça vous paraît, il n'y a pas d'autre alternative.
Il n'y a pas d'autre
alternative.
Évident. Exactement.
La reconnexion avec la nature.
Pour le coup, moi je parle pas du tout de nature. Enfin c'est quelque chose auquel je crois pas, parce que ce concept de nature suppose qu'à côté il y a la culture et qu'on peut dissocier les deux. Donc c'est la thématique du parc national, c'est de dire protégeons un endroit de la planète,
oui.
Comme ça l'autre on va pouvoir le déglinguer. Moi je serais plus dans tout est nature.
Tout dépend de l'interprétation qu'on en fait. Par exemple, celle que vous venez de me donner, c'est pas la mienne.
Non, mais par contre,
certes, ce sont des endroits protégés, mais ça n'empêche pas que pour
non,
le reste,
bien
on,
sûr,
on
mais
doit être tout aussi respectueux.
Dans la culture que nous avons, il y a l'idée qu'il y a le monde des hommes et qu'il y a la nature. Ça, c'est enfin la séparation nature-culture. Enfin, et je vais rebondir sur quelqu'un qui s'appelle Alessandro Pignocchi, qui fait des bandes dessinées, qui a étudié les Indiens Jivaro d'Amazonie, et pour lesquels il n'y a pas de distinction. Nature-culture, ils font partie d'un grand tout. Et moi, je serais a priori plutôt de ce monde-là. Je suis artisan, je suis architecte aussi à côté. Et c'est de dire, en fait, comment on produit en ayant le moins d'impact possible. Parce qu'on en aura de toute façon. On modifiera la nature, on tuera des choses. Mais faisons-le en conscience. Et il n'y a pas de... Ne gardons pas les sanctuaires. enfin, gardons des sanctuaires, mais ne sanctuarisons pas la nature, parce qu'en fait, ça va. Ma lecture serait que, à force de continuer à détruire le reste, il ne va rester plus que ces endroits-là. Et on sait bien ce qui se passera s'il ne reste plus que ces endroits-là. Ils finiront par être utilisés aussi. Donc voilà, c'était un peu long pour répondre à la question, mais. Et je vais juste terminer sur le Covid, parce que du coup, ça m'intéressait de donner un petit peu notre rapport à cette crise. Nous, ça n'a pas du tout été une prise de conscience. Ça a vraiment
elle était déjà là, la prise de conscience.
Elle était là, on faisait déjà. Ça a été par contre une confirmation de dire OK. On avait vu juste, mais de dire.
On était sur la bonne route.
On était sur la bonne route, donc on accélère. On continue.
Est-ce que vous avez eu de nouveaux adhérents? Est-ce que vous avez eu plus de monde?
Pour l'instant, on n'est pas une association, on est juste un collectif. Donc, j'ai pas parlé des gens qui
alors
sont.
Je ne sais pas comment s'appellent les gens qui contribuent à un collectif. Des collecteurs.
C'est peut-être des collecteurs. Mais je pense que toutes les personnes qui font partie de ce groupe-là sont des collecteurs. Mais
à non, on est. 50 ans.
Ça. C'est ça. Non, collecteur, ça pourrait être par la qualité des personnes. Non, mais on est un petit groupe.
Je commence à le connaître. Je pense pas que ce soit sa façon de voir les choses.
Non, on est un groupe vraiment cœur de 4 personnes. Donc dedans, y a ma mère.
Oui.
Et on a un couple d'amis.
Oui.
Et on est un groupe large, plutôt de 8 personnes. Donc on est quand même un très petit groupe. Mmh. Donc je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on fait tout ça. Et voilà, on n'est pas. Il y a des gens qui gravitent autour, donc souvent du réseau, de venir ponctuellement donner un coup de main, comme tout à l'heure on parlait de donner des plans. D'un seul coup, j'ai 20 pieds de tomates, c'est ce que vous les voulez, nous. Mmh. Mais en termes de personnes qui vont être là à faire toutes les choses, on est très peu. Mmh.
D'accord. Alors, est-ce que vous êtes très peu, est-ce que les gens connaissent cette initiative? Est-ce que vous cherchez à vous faire connaître? Comment
Alors, c'est une bonne question.
En dehors de cette émission radio, comment est-ce qu'on sait que le collectif La Châtaigne existe?
C'est une bonne question parce qu'on a commencé.
Ça m'arrive à mes temps perdus, oui.
Je ne l'ai pas dit pour toutes les autres questions, ça va. Comme on a commencé ça en automne, à un moment où on n'était pas censé se réunir, on n'a pas voulu
faire. Mais n'en parler à personne.
Et donc, en fait, on a décidé de commencer petit, puis de grossir après. Et là, c'est vrai qu'on arrive à un moment où. On se dit qu'on aimerait bien diffuser, donc je profite de l'émission pour dire que nous cherchons des volontaires qui veulent venir jardiner avec nous, découvrir et nous apprendre.
Alors, quels sont les critères pour entrer dans votre collectif?
Alors, il faut avoir moins de 28 ans.
On rajeunit.
Non, il n'y a pas de critères.
Non, mais par exemple, des critères de territoire, peut-être, non?
Non.
Pas du tout.
Si quelqu'un veut faire 5 heures de route pour.
Si on est en Chartreuse et qu'on veut venir vous voir.
C'est pas terrible, pour
l'empreinte carbone, c'est pas terrible.
Mais on ne peut pas voir tout. L'aune de l'empreinte carbone non plus, parce que quelqu'un de très intéressant peut venir
de très loin.
De très loin. Et comment on quantifie ça par rapport à. Il faut bien qu'on se mette en réseau. Mais effectivement, si possible, territoire proche.
Oui, c'est
et
mieux.
Même localement dans le village. Parce que voilà, l'idée d'avoir un jardin. Nous, on a bien envie à un moment d'être, pas exemple, mais de dire regardez, on l'a fait, ça nous a pris tant de temps, on a commencé cet automne. Donc c'est possible de faire pareil partout. Et donc. On est un peu sur un double pour vivre heureux, vivons cachés, mais parlons-en
pas
quand
trop,
même.
Pas trop caché.
Donc c'est une double posture, mais donc voilà, on n'a pas de site web, c'est du bouche à oreille, on a l'avantage d'être sur un chemin de randonnée.
Oui.
Donc il y a pas mal de gens qui passent.
Il y a des pancartes, il y a quelque chose.
Il y a des pancartes. Ouais.
Ok.
On va commencer à faire une boîte à graines. Enfin, il y a l'idée que
Facebook.
Non.
Non. Ça m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est une. Pareil, le nom La Châtaigne, c'est venu en fait en discutant parce que nous on habite juste à côté et en fait c'est une ancienne châtaigneraie qui a 300 ans et puis la châtaigne en fait c'est bah, j'en profite c'est un fruit qui a sauvé des tas de gens de la famine, c'est un nom qui a plein de sens, la châtaigne c'est un coup de poing, c'est aussi
c'est
une châtaigne électrique,
c'est ce
qui
réveille. C'est ce que nous mimait dans votre dos Julien quand
même. Et ben voilà, exactement. Et puis la dernière chose, c'est quelque chose qui pique et qui est pas toujours très agréable. Et il y a un peu aussi cette idée-là de déranger. C'est vrai qu'une châtaigne sur une pelouse, c'est pas top. Mais en même temps.
Moi, j'aime bien. Mais moi, je suis pas comme tout le monde. Donc, ouais. Très bien. Merci. Merci, Tom. On se refait une petite pause musicale avant de continuer cette émission passionnante.
Parfum, son esprit est ambulant au-dessus.
Et vous nous rejoignez actuellement sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse dans l'émission Place aux idées, émission des amis du parc de Chartreuse sur la thématique des jardins partagés et des marches similaires, jardins collectifs, pardon, pas partagés, et des variantes associées avec les invités du jour. Alors, j'ai fait un petit lapsus plutôt révélateur, d'ailleurs, en parlant de jardins partagés, où on pourrait penser aux jardins ouvriers qui ont eu existé au début du siècle. Est-ce que ces idées-là sont parties de ces initiatives-là? Comment sont nées? Comment ont germé, c'est le cas de le dire, vos idées respectives?
Le jardin ouvrier, mon père, quand on habitait en Touraine, il en avait un, donc on était très fréquent, fracamment avec lui pour le travailler. Mais bon, c'est vrai qu'il s'est passé du temps. Donc après, l'initiative du jardin à Miribel-les-Échelles est venue plutôt à un moment donné où j'avais plus de temps pour essayer, moi personnellement, pour essayer d'avoir du temps pour ouvrir quelque chose à Miribel-les-Échelles, puisque personnellement, dans ma vie, je trouvais qu'en arrivant dans un village, être dans un endroit où on n'a pas suffisamment de contacts, c'était quelque chose d'hyper difficile à vivre.
Et contradictoire pour
voilà.
Un village.
Voilà. Et donc, ça a été un petit peu le moteur. Après, chacun, au niveau de l'association ou du collectif, a des motifs un peu différents. Mais c'était un peu le moteur. Donc,
on retrouve la notion d'échange et de rencontre dont nous parlait Catherine.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Rachel?
Ben moi, c'était surtout l'échange, parce que j'ai un jardin à côté, qui est très pentu, mais on l'a terrassé, on a fait ce qu'il fallait pour le rendre agréable. Mais là, c'était surtout l'échange,
la rencontre.
C'est vrai que tout à l'heure, vous parliez d'âge. Nous, quand on arrive à Miribel, on avait des enfants qui étaient encore jeunes. Il y a l'école qui permet de se rapprocher des habitants, de faire des rencontres. Et puis, quand ils grandissent, c'est un peu plus difficile. Et effectivement, il n'y a pas de café, il n'y a pas d'autres lieux. Et cette idée de jardin partagé tombait vraiment
à pic.
Et effectivement, grâce à ça, on a rencontré vraiment des personnes formidables.
Que vous n'auriez pas rencontré autrement.
Mais vraiment.
Tout simplement. Dans l'idée de jardin ouvrier, on est aussi sur quelque chose d'individuel, alors que c'est plutôt collectif.
Là, c'est
donc c'est
collectif.
Voilà, c'est plutôt
une... C'est la dimension collective, moi, qui m'a séduit dans
le concept. Ouais. D'accord. Catherine, pour Saint-Jean.
Je voulais dire quelque chose par rapport à faire quelque chose ensemble. Ça fait partie de vraiment aussi des objectifs de notre collectif. Par exemple, on organise aussi des ateliers d'échange de savoir-faire. Donc ça peut être de la couture, fabriquer des produits ménagers, enfin des choses comme ça. Et le jardin, je voulais dire aussi le plaisir de faire des choses ensemble. C'est-à-dire, on a fabriqué nos bancs avec ce qu'on a, des trucs de récup, on a des idées de faire d'autres choses. Et on est content de faire ça, on voit de le faire ensemble, et puis de voir le résultat. Enfin, je trouve que c'est une émulation aussi. Et ça fait du bien d'être, avec les autres et de faire quelque chose ensemble, quoi.
Bien. Et Tom, pour finir?
Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu répondu déjà à la question tout à l'heure. Et du coup, est-ce que je peux me permettre de dire les problèmes qu'on rencontre
en termes de collectif?
L'organisation du travail.
La distribution?
La distribution, le fait que les gens ne soient pas disponibles en même temps, de dire qu'est-ce que c'est en fait de vivre comme un groupe, de travailler comme un groupe. Enfin... C'est quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école, c'est quelque chose que depuis 70 ans on a détricoté dans les manières
de faire. On revient sur la dimension plus individualiste qu'on a eue jusqu'à présent.
Ouais. Vous parlez des
jardins
ouvriers. Il y avait une culture collective à ce moment-là qui a disparu pour tout un tas de raisons. Donc, premier gros point, c'est qu'on n'a pas la culture collective qui va avec. On le voit souvent il y a un gros engouement pour les habitats partagés.
Oui.
Et donc, souvent, les gens en fait vont tous habiter ensemble. Mais ils ne savent pas travailler ensemble, ils ne savent pas interagir, et bien souvent ça explose. Et donc nous, pourquoi le collectif s'est créé, je pense qu'il y a inconsciemment cette idée de dire avant d'habiter tous ensemble, on va déjà essayer de travailler ensemble. Et en fait, c'est super dur. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, c'est la vision commune au savoir. Enfin, toutes ces personnalités, elles vont avoir un rapport au travail. La bonne manière de faire, c'est celle-là. Donc ça, il faut arriver à les concilier.
Et trouver un consensus.
En
même temps, c'est très humain. Et puis c'est plutôt rassurant. On n'est pas tous formatés sur le même même pensée.
Alors,
unique ou la même.
Je pense que c'est rassurant dans une salle de radio ou dans un débat, déconnecté de la réalité. Sur le terrain, moi, ça me fait complètement flipper. parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne vit pas une culture réellement horizontale. Engrammé inconsciemment, il y a l'idée qu'il nous faut des chefs. Et il y a une tendance et un idéal où on aimerait tous tendre sur « il n'y aura pas de chef ». Et en fait, il y a une espèce de grand écart là. Et enfin, du haut de ma petite expérience, pour l'instant, je me rends compte que cette idée de consensus, elle fonctionne, mais quand tout le monde prend les responsabilités. Parce que essayer de travailler tout le temps le consensus, mais in fine, quand c'est les deux, trois mêmes qui doivent prendre les décisions et assumer, il y a un moment, le consensus, c'est beaucoup de travail pour au final pas beaucoup de justice. Donc ça, c'est le dernier point.
On retrouve ça, Tom, dans les trois quarts des associations aussi. Hein.
Complètement. Oui. Donc, ça, c'est
nous
vraiment
aussi,
ça.
On a cette question.
Ok. Et le dernier point, c'est le temps. Au sens de le temps de chacun et surtout le paradoxe auquel on fait face, quand Catherine le disait tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, pour moi, le grand paradoxe de l'écologie, c'est ça, c'est il faut urgemment qu'on prenne le temps de faire les choses. Donc, on a peu de temps pour le faire. Et les nouvelles manières qu'on doit mettre en place pour arrêter de tuer les populations et de tuer notre planète, c'est des manières qui, elles, vont prendre le temps et plus qu'aller sur le rythme de la machine effrénée. Donc, il y a une espèce de truc...
Dichotomie entre ce qui est et ce qui devrait être.
C'est ça. Oui. Et puis surtout, il faut qu'on le fasse vite, mais doucement. Donc voilà, ça, c'est quatre problèmes. Et je pense que c'est important... pour les collectifs peut-être qui nous écoutent ou les gens qui aimeraient le monter, qu'on puisse se mettre en réseau et discuter de ça. Parce que ça fait gagner des années-lumière, en fait, en termes de travail.
Avis à ceux qui nous écoutent, qui seraient de près ou de loin liés à des collectifs. Alors, un dernier mot de la fin, on se refait un petit tour de table en se disant au revoir pour chacun d'entre vous. Un dernier petit message à nos auditeurs. On commence par Rachel.
Créer des jardins collectifs, mettez-vous en réseau avec vos voisins, dans vos villages, les villes, et puis on ira peut-être dans la bonne direction.
Merci Rachel. Catherine ?
Eh bien, moi je dirais groupons-nous. Je n'ai pas la suite, mais du coup aussi, n'hésitez pas à passer voir notre jardin donc à Saint-Joseph-de-Rivière qui est entre l'église et l'école, notre petit jardin. Et rendez-vous aux prochains événements qu'on organisera avec notre collectif. C'est pour aujourd'hui et pour demain.
Très bien, vous me donnerez tous vos adresses de site où est-ce qu'on peut trouver des ou de mail ou téléphone, ou puisque... Et pas Facebook pour Tom, j'ai bien entendu, pour qu'on puisse relayer les informations et les façons de vous joindre, Tom.
Eh bien, peut-être déjà, je vais dire où on est. Donc, à Saint-Jean-d'Avelane, on est sur les hauteurs, donc à La Montaz, au-dessus de la Maison Forte. Donc, n'hésitez pas à passer pareil. Et donc, pour le mot de la fin, quand on est autonome, on peut négocier. Quand on est dépendant, on ne peut pas négocier avec un modèle dominant. Donc, il est important qu'on construise nos modèles d'autonomie et qu'on mette en lien dans un monde en voie d'isolement.
Je vote pour. Ghislaine.
La communauté de communes de Chartreuse, il y a plein de potentiel, il y a plein d'associations. On a été mis en lien il n'y a pas très longtemps grâce à Ecolab, ce qui nous a permis un peu de nous connaître. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore pris le temps de prendre contact, mais déjà de savoir qu'il y a des choses qui se passent ici, pas loin, et qu'il y a des gens qui réfléchissent un peu dans la même ligne, et ça fait chaud au cœur.
Super, c'est un très très joli mot de la fin. Merci à tous, à très bientôt. Vous êtes les bienvenus sur Radio Couleur Chartreuse, et à très bientôt pour un nouveau Place aux idées, le mois prochain.